Le mois dernier, nous avons entendu l'enseignement du Père Jean-Rodolphe concernant le message de Fatima, avec des méditations, des réflexions des derniers papes, particulièrement le Saint Jean-Paul II. Je rappellerai simplement ce soir, dans une première partie, quelques similitudes entre les révélations d'ici, de Paray-le-Monial, avec celles de Fatima, des similitudes entre la révélation du cœur de Jésus au XVIIe siècle avec cette révélation du cœur immaculé de la Vierge Marie au début du XXe siècle. Nous le savons sûrement que le but premier des apparitions de Fatima a été la révélation du pouvoir du cœur immaculé de Marie et l'instauration d'une dévotion envers ce cœur qui serait comme un secours ultime contre toutes les menaces pesant sur l'humanité depuis ce début du XXe siècle. Nous nous rappelons, le message central fut révélé le 13 juin 1917, le mois de juin étant dédié d'une manière particulière au Sacré-Cœur de Jésus. Donc ce n'est pas un hasard. Il y a donc une relation très étroite entre ces deux dévotions, ces cultes, hein, comme on peut les appeler. C'est celui issu des messages, du message de Paray-le-Monial et de Fatima. Il y a des caractéristiques communes aussi concernant la réparation, ensuite la consécration et puis aussi une annonce du triomphe final. L'allusion que les bergers nous ont laissée à Fatima dans leur récit hein, des expériences qu'ils ont eues nous montre bien ce lien entre les deux cœurs, celui de Jésus et de Marie. À Fatima, ces mentions des cœurs de Jésus et de Marie sont permanentes en fait. Et les apparitions de la Vierge aux trois pastoraux de 1917 sont précédées plusieurs mois avant, un an avant à peu près, en 1916 donc, par trois communications de cet ange qui se nomme l'ange du Portugal, qui est apparu donc trois fois, vous vous rappelez, hein? Eh bien, dans la première apparition, l'ange dit « Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications ». C'est très, très beau, je trouve. C'est comme un rappel qui nous est fait à nous tous, en fait, concernant l'importance de nos supplications, notre prière, dont parfois on a l'impression qu'elle n'est pas écoutée par Dieu. Et on se dit, ben, Dieu ne m'écoute pas. Mais voilà, l'ange rappelle, pas seulement aux trois bergers, mais à nous et à l'Église entière, si toute prière touche le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Et j'ai insisté un peu là-dessus parce que on verra tout à l'heure pourquoi c'est vraiment important de tenir compte de cela. Dans la seconde apparition, l'ange leur dit « Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. » C'est comme une sorte de déclaration d'amour. Vous êtes toujours aimé par Dieu. Il vous fait toujours miséricorde. Et il a des desseins sur vous que peut-être vous ne connaissez pas. Donc c'est aussi comme une sorte d'invitation à la confiance, en fait. Et dans la troisième visite, l'ange leur enseigne une prière qui se termine ainsi. Et par les mérites infinis de son très saint cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie, je vous demande La conversion des pauvres pécheurs. Donc l'ange apprend aux enfants une prière qui, s'adressant à Dieu, implore que les pécheurs, les pauvres pécheurs, hein, se convertissent. Alors, c'est simplement un rappel que je voulais faire concernant ces grandes apparitions de la Vierge Marie aux trois enfants. Aussi, maintenant, car la Vierge Marie elle-même fait une mention de cette dévotion adressée aux deux cœurs, le sien et le cœur de son fils Jésus. Déjà dès la deuxième apparition, la Vierge Marie qui dit à Lucie, Jésus veut se servir de vous pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. C'était donc le 13 juin. Et dans la troisième apparition, la Vierge enseigne une prière qui commence par ces mots. Ô Jésus, c'est pour votre amour, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Pour sauver les pécheurs, je cite encore, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Bien après ces apparitions, Hyacinthe bénéficie de plusieurs visions complémentaires, comme d'ailleurs Lucie aussi. Et dans l'adieu à sa cousine Lucie, Hyacinthe, qui va mourir bientôt, le 20 février 1920, expose la mission de sa cousine Lucie. « Toi, tu restes ici pour dire que Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Le cœur de Jésus veut qu'à côté de lui soit vénéré le cœur de Marie. » Voilà, j'ai voulu faire ces quelques rappels, ces citations de ces apparitions à Fatima pour nous aider à comprendre quelque chose de très beau. Nous savons que les révélations au cours de l'Église, de l'histoire de l'Église, ne peuvent pas rajouter quelque chose à la révélation unique, hein, celle de l'Écriture, celle que Jésus lui-même est venu nous apporter. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ces révélations à Fatima dont nous fêtons cette année le centenaire? Eh bien, comme un rappel, comme une insistance de Dieu qui voudrait renouveler en fait, à travers cette dévotion envers le cœur immaculé de Marie, eh bien, qui veut renouveler dans le monde entier le culte au sacré cœur de son Fils. C'est un rappel à ce que l'Église entière se tourne de nouveau vers ce cœur de Jésus qui est ouvert, qui est la source de tout amour et de toute miséricorde. Donc bien sûr, quand nous approchons du cœur immaculé de Marie, comme on l'a entendu la fois dernière, le mois dernier, eh bien nous avons la possibilité, le chemin le plus court, hein, comme le disent beaucoup de saints, pour arriver justement dans la profondeur de ce cœur de Jésus et répondre à ses désirs, à ses attentes. Donc avec la Vierge Marie, ce soir, eh bien nous allons justement nous plonger dans ce mystère de cœur de Jésus encore, ici dans cette chapelle, avant de commencer l'heure sainte, pour nous rappeler de cet appel que Jésus adresse à Marguerite Marie et à l'Église entière concernant justement l'attitude que nous devons avoir envers lui. Et je disais tout à l'heure, dans ces de grands moments de l'Église, eh bien, ce qui est commun, eh bien, c'est justement cet aspect de la réparation, mais aussi la consécration que le Seigneur demande à tous ceux qui croient en lui. Qu'est-ce que c'est que la réparation? Alors, je vais vous rappeler simplement que dans la à l'occasion de la deuxième apparition de Jésus à Marguerite Marie, ici même, dont on voit la représentation sur la fresque, eh bien, le Seigneur invite Marguerite Marie à passer une heure en se levant entre 11h le soir et minuit pour se prosterner la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère, en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume qu'il sentait de l'abandon de ses apôtres. Donc, Jésus demande à Marguerite Marie de participer à son agonie rédemptrice, de prendre part à cet acte de salut, d'entrer dans ces sentiments de cœur de Jésus qui voulait absolument sauver les pécheurs. Et un peu plus tard, quelques mois après, donc, dans la troisième grande apparition, en juin 1675, donc, Jésus précise un peu plus justement son désir d'inviter les fidèles, les croyants, à vénérer son cœur pour réparer justement les offenses qu'il reçoit. Je vais vous citer de nouveau ce texte, ce récit de Marguerite Marie que nous connaissons, mais que peut-être on n'a pas encore appris par cœur. Hein? Donc, on va l'entendre de nombreuses fois. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Et voilà maintenant la demande. Je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur. Alors écoutez bien ceci, parce qu'il y a des termes qui ne sont pas très simple à comprendre. En communion ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Alors, qu'est-ce que Jésus demande en fait à travers cette institution de la fête en honneur de son Sacré-Cœur? Eh bien, que l'Église entière célèbre le sacrifice eucharistique en honneur de cet amour divin et humain à la fois. Infini et fini, qui est à l'origine, en fait, de cette fête-là, de la solennité du Sacré-Cœur. Alors, les évêques pouvaient le faire, hein, ils avaient ce pouvoir, hein, pour leur diocèse respectif, et le Saint-Siège avait aussi la possibilité de l'instituer à l'ensemble du rite latin. Donc du coup, d'une certaine manière, la demande de Jésus visait le siège apostolique même, c'est-à-dire l'autorité suprême dans l'Église. À travers Marguerite Marie, eh bien, Jésus s'adressait au pape, si on peut dire ça. C'est très audacieux, n'est-ce pas? Alors, du coup, on comprend aussi justement la grande stupeur et les troubles même de Marguerite Marie. Mais ce qui est essentiel, c'est que cette demande eucharistique avait justement un but de réparation. Et Jésus insiste sur ce mot. C'est comme s'il voulait s'adresser à l'Église entière pour dire, eh bien, toute l'Église doit faire un geste, un acte public qui va réparer, voilà, les offenses que les pécheurs me font. Alors, je vais m'arrêter un tout petit peu sur ce mot pour comprendre bien qu'est-ce que c'est que cette réparation. Alors, d'abord, concernant le vocabulaire qu'utilise Marguerite Marie, il ne s'agit pas seulement de ses propres visions à elle ou de sa psychologie personnelle, mais ça montre un peu quelle est la culture, la mentalité de son temps et de son pays, de notre pays, je dirais, de ce XVIIe siècle. Donc, qu'est-ce que signifie ce mot « réparation d'honneur » dans ce contexte de 1675 en France? C'était un mot, l'amende profitable, qui concernait plutôt l'aspect pécunier. Et bien, le mot amende honorable est un châtiment criminel entre fouet et exil. C'était quelque chose d'inconnu du droit romain. Mais il est couramment infligé du XVe au XVIIe siècle aux clercs, mais aussi aux laïcs. Selon l'arbitre du juge, cette amende honorable sanctionne tout délit grave contre Dieu, contre l'Église ou contre l'État. Alors le délinquant torche au poing, c'est-à-dire en tenant en main un cierge jaune, tête nue et nu-pied, la chemise décente, menée par le bourreau, souvent la corde au cou, et pourtant chef d'accusation lisible de partout, doit désavouer à haute et intelligible voix son crime et, agenouillé, doit crier merci, c'est-à-dire demande pardon. Eh bien, cette amende honorable dérive en droite ligne des rites de la pénitence, où le mot va être remplacé par satisfaction, qui existe encore dans notre langage, concernant le sacrement de la réconciliation. Satisfaction. Alors, c'est une peine corporelle qui a comme but de régénérer la personne dans sa totalité, corps et âme. Et elle inclut cette forme de confession publique et aussi une demande de réconciliation. Et donc, voilà, cette démarche se situe très nettement dans l'histoire de l'évolution du sacrement de la réconciliation, du Saint-Sacrement de la pénitence, avec ces trois éléments essentiels, la contrition, la confession et la satisfaction. Alors, ce petit rappel historique nous aide à comprendre l'importance pastorale aussi de ce message de Jésus à Marguerite Marie ici, en soulignant le caractère d'expiation du sacrifice eucharistique que donc Jésus demande à être célébré d'une manière solennelle en honneur de son cœur, bien en soulignant aussi sa finalité propitiatoire, valoriser aussi le recours au sacrement de pénitence pour que tous puissent disposer à une communion fructueuse. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une prière, je dirais, communautaire, d'une procession, d'une liste de prières récitées en public ou chantées, ou des litanies, mais il s'agit justement de cet aspect sacramentel. Et là, il est vraiment important de comprendre pourquoi. Eh bien, ces révélations privées de parélémoniales d'ici, qui sont destinées au monde entier, avaient comme finalité une meilleure participation justement à ce mystère pascal de Jésus, sa mort, sa résurrection, et particulièrement sous son aspect d'expiation. Et donc, c'est une sorte de nouvelle valorisation de cette offrande totale, infinie de Jésus avec son amour surabondant pour tous les péchés du monde qu'il a voulu vivre en mourant sur la croix. Et c'est bien là le message important que nous pouvons retenir premièrement ici. Le premier qui a pu réparer, en fait, tous les péchés, les effacer même complètement, les péchés du monde, eh bien, c'est ce Jésus, le médiateur unique. Donc, quand Jésus révèle son cœur ici, eh bien, il va au-delà d'une simple voilà, dévotion hein, ou un simple lien de cœur à cœur. Il s'agit de l'acte le plus important de l'histoire de l'humanité. Et donc, on a vraiment besoin d'entendre cela, parce que justement, en nous demandant de célébrer la fête du Sacré-Cœur, Jésus veut nous introduire avec lui dans cette offrande que lui-même vit chaque fois quand il s'offre sur l'autel, dans ce sacrement de l'Eucharistie. C'est vraiment le premier aspect de ce mot, de la réparation. C'est ainsi qu'en fait, nous pouvons, en effet, nous tourner totalement vers Dieu le Père pour vivre cela avec Jésus. Et ensuite, je vais essayer de vous proposer un autre aspect aussi que Jésus nous demande de vivre à travers cette expérience de la réparation quand nous allons nous tourner vers son cœur. Il nous dit, on l'a entendu, que son amour n'est pas aimé. C'est comme pour nous dire que si nous voulons vraiment réparer cette blessure, eh bien, on a d'abord et avant tout à accueillir cet amour. Donc, la forme la plus, l'acte le plus, je dirais le plus simple en fait, l'acte premier hein, de réparation que nous pouvons montrer au Seigneur, c'est justement laisser tout son amour miséricordieux nous envahir, nous pénétrer. Le reconnaître, le laisser nous bouleverser totalement. Et c'est là que Marguerite Marie, Claude Lacolombière aussi, et un peu plus tard aussi, les autres saints, Sainte Thérèse, Sainte Faustine aussi, eh bien, nous rappellent cela. Alors, on peut prendre un exemple tout simple. Combien de fois avons-nous peiné le Seigneur parce que, justement, nous ne lui avons pas demandé toutes les grâces que son cœur désirait tant nous donner. Il veut nous faire des cadeaux, et puis on dit, je n'en ai pas besoin. Ou alors, on n'ose pas le demander. Alors que cela, ça console énormément son cœur. Ou alors, combien nous lui faisons plaisir quand nous décidons de prendre le temps de le lui demander, justement. Alors il y a un psaume 146 qui dit « Dieu se plaît en ceux qui espèrent son amour ». Avoir confiance donc en la générosité infinie de Dieu lui plaît énormément et répare tous ces manques de confiance qui blessent tellement son cœur. Donc voilà une première attitude importante. Alors il y a ici quelque chose de très beau que les saints ont essayé de vivre. Et au lieu de nous présenter devant le Seigneur les mains pleines de nos propres sacrifices à nous, sacrifices petits ou grands, ce que nous pouvons faire, c'est justement nous présenter devant le Seigneur avec les mains vides. Vous savez que c'est Sainte Thérèse dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux qui dit cela, je veux me présenter les mains vides pour pouvoir tout accueillir de toi Seigneur. Et nous lui faisons tout autant plaisir en nous présentant justement avec les mains vides pour nous ouvrir à l'invasion des torrents de sa miséricorde que chaque fois que nous nous présentons durant l'offertoire hein, à la messe où nous laissons notre cœur sur l'autel, voilà, pour qu'il puisse être rempli de cet amour qui vient de lui, qu'il veut répandre dans nos cœurs. Alors, voilà, une forme de réparation que nous pouvons vivre. Il y a aussi une autre modalité que nous pouvons appliquer enfin, tous les jours, que nous pouvons vivre régulièrement, une autre façon de réparer, de faire plaisir au Seigneur. Il s'agit d'offrir nos sacrifices au Seigneur. Nous pouvons en effet, et même nous devons, comme l'ont fait tant de saints, nous présenter aussi devant le Seigneur avec les mains pleines de nos sacrifices. Il nous les mendie, il en a soif. Sans oublier, bien sûr, que c'est encore lui qui nous donne la grâce de les accomplir. Alors, bien sûr que mourir martyr, penser qu'un jour on pourra être torturé ou crucifié, bien, a été, et peut-être reste encore pour beaucoup, le rêve des chrétiens, en disant comme ça, j'irai directement au ciel. Bon, certains ont peur hein, du martyr, surtout vu ce que l'humanité est en train de vivre, ou même tout proche de nous. Et ces chrétiens qui rêvent, hein, qui pensent au martyr, ou qui le vivent vraiment, eh bien, ils sont conscients qu'ils veulent imiter en fait Jésus jusque dans sa mort. Et d'ailleurs, pendant des siècles, l'Église ne canonisait que les martyrs. C'est assez tard, hein, c'est seulement en 397 que saint Martin, évêque de Tours, a été canonisé, et c'était le premier qui n'est pas mort martyr. Et les martyrs ont toujours cru à la fécondité de leur souffrance offerte avec amour. Et dans une formule lapidaire, Tertullien disait dans les premiers siècles, dans le deuxième siècle, l'espérance qui habitera toujours le cœur des martyrs, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Mais justement, la plupart des chrétiens, eh bien, n'ont jamais oublié que c'est l'amour, en fait, et non la souffrance qui plaît au Seigneur et qui obtient la conversion des pécheurs. Saint Paul envisage même qu'il serait possible de livrer son corps aux flammes sans amour dans le cœur. Et il dit quoi ? Cela ne me sert à rien. En 1 Corinthiens, chapitre 13. Et donc, du coup, on a tout à fait le droit d'offrir à Dieu tout simplement son chant d'amour dans les joies comme dans les peines. Il y a aussi le martyr, comme disait Thérèse, à coups de piqûres d'épingle. C'est-à-dire tous les sacrifices qu'on peut vivre chaque jour. Toutes les contrariétés d'une vie communautaire, que ce soit monastique ou que ce soit dans la communauté familiale ou paroissiale ou professionnelle, il peut y avoir beaucoup de piqûres comme ça, hein, de la part des uns et des autres. Et c'est comme une sorte de martyr, dit Thérèse. Il n'empêche que les saints, qui sont nos modèles, ont toujours senti l'Esprit Saint leur suggérer de désirer la souffrance pour réparer davantage. Et quand on lit les écrits de Marguerite Marie, on est parfois un peu étonné de la façon dont elle comprend la souffrance, et même Saint-Claude vers la fin de sa vie. Mais il ne s'agit pas ni du jansénisme, ni du masochisme, ni du dolorisme. C'est tout simplement l'enseignement de l'Évangile. Pour que le grain produise du fruit, il doit mourir, nous dit Jésus. Pour être son disciple, il faut le suivre en portant sa croix. Et il y a sainte Faustine qui écrit dans son petit journal ce que Jésus lui dit un jour. Il n'y a qu'un prix par lequel on rachète les âmes, et c'est la souffrance unie à ma souffrance sur la croix. L'amour pur comprend ces paroles, mais l'amour charnel ne les comprendra jamais. Voilà, donc comprendre que à travers nos souffrances, unies aux souffrances de Jésus, nous pouvons sauver les âmes, Eh bien, c'est une grâce que Dieu nous fait dans la foi. Parce que naturellement, on a envie de repousser toute forme de souffrance, en fait. Et cette conviction de sauver les âmes par l'offrande de nos souffrances, eh bien, a été toujours présente dans la vie des saints, et beaucoup ont compris que même les moindres actes, les moindres sacrifices peuvent avoir une valeur extraordinaire. Il y a aussi le père Charles qui disait quelque chose de très très beau. Depuis la venue du Christ, nous sommes délivrés non du mal de souffrir, mais du mal de souffrir inutilement. Cette humble certitude d'exercer par l'offrande de sa souffrance une véritable maternité ou paternité spirituelle. Paul Claudel même la met sur les lèvres de Violaine lorsqu'elle confia son père à la fin de l'annonce faite à Marie. « Père, père, ah, que c'est doux, ah, que cela est terrible de mettre une âme au monde. » Et ceux et celles parmi nous qui connaissons la force et la puissance de la souffrance, eh bien, quand on l'offre au Seigneur, justement dans cette réponse à l'appel de réparation, eh bien, nous avons la certitude intérieure qu'elle n'est pas inutile et que les souffrances ne sont jamais inutiles quand elles sont unies à la croix. Alors le curé d'Ars a des paroles très, très dures comme ça. Hein. Il dit « Chacun a sa croix ». Si on connaissait tous les mérites et qu'on pût les prendre, on se les volerait les uns aux autres. C'est curé d'Ars, hein? Si nous pouvions aller passer 8 jours dans le ciel, disait-il encore, nous comprendrions le prix de ce moment de souffrance. Nous ne trouverions pas de croix assez lourde, pas d'épreuve assez amère. Alors, s'il y a encore des croix, des calvaires, hein, qui ne sont pas encore toutes démolies, ni enlevées, au carrefour, parfois, eh bien, ce n'est pas seulement pour nous rappeler l'amour inouï avec lequel notre Dieu, le Seigneur, a souffert pour nous. Ce sont aussi tant de signes qui nous rappellent, qui nous invitent à ne pas oublier que nous pouvons sauver le monde avec Jésus et en lui, en offrant à Dieu toutes les épreuves de notre vie quotidienne. Alors, cette offrande, ces offrandes différentes que nous faisons, eh bien, nous pouvons les renouveler à chaque Eucharistie. Et c'est justement l'acte de réparation suprême, en fait, que Jésus demande ici. Et que, du coup, aussi, la Vierge Marie à Fatima, à travers ce qu'elle dit au pasteur, en le disant, est-ce que vous voulez souffrir, est-ce que vous voulez faire pénitence, 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 eh bien, c'est cela, en fait. C'est pas un appel à souffrir pour souffrir, mais c'est un appel à transformer notre souffrance en offrant à celle du Seigneur. Et alors, comme nous le disons encore, hein, dans ce chapelet de la Divine Miséricorde, hein, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et on dit, Père éternel, je t'offre le corps et le sang. Voilà. Je t'offre mon corps et mon sang aussi. Alors, je vais finir en me permettant de citer le père Édouard Glotin, qui a écrit dans son livre de l'amour à l'adoration, Le culte du cœur de Jésus. Pourquoi la réparation s'adresse-t-elle de manière privilégiée au cœur de Jésus, même quand donc elle passe par le cœur de la Vierge Marie? C'est parce que le cœur de Jésus a été le lieu d'une souffrance intérieure autrement longue et douloureuse que celle de son corps sur la croix, comme nous le dit Sainte Marguerite Marie. Il est donc juste que notre réparation s'adresse à lui d'une façon ciblée. Alors seulement, le culte rendu à l'amour méprisé de Jésus devient de plein droit culte de son cœur. Bien dans cette chapelle, et notamment là tout de suite quand nous allons vivre l'heure sainte, et bien essayons d'entrer dans cette démarche d'offrande de nous-mêmes, d'offrande de nos souffrances, de nos maladies, de nos contrariétés, de nos situations douloureuses, des épreuves que nous vivons, sans rien garder pour nous. Ça ne sert à rien de garder pour nous tout ça, parce qu'il n'y a pas de sens autrement, ça devient absurde. Mais au contraire, eh bien, c'est une façon de répondre à ce désir du cœur de Jésus qui sera honoré là, dans cette heure d'adoration et l'heure sainte, à travers toute notre vie. Et en même temps, eh bien, nous allons offrir tout cela, pas seulement pour notre pays, la France, hein, mais pour le monde entier, pour les pécheurs du monde entier, pour lesquels Jésus a voulu livrer sa vie, donner tout son cœur, tout l'amour de son cœur pour l'humanité.